séance du Conseil à laquelle certaines personnes font des faux qui ont donné des procurations. Ah, monsieur Léon arrive. Alors, nous avons monsieur Galibin pour Claude Clavel. Nous avons Barbara Louillot pour Sophie Campagne, Christian Claverie pour François Fernandez et Corinne Mayan pour Bernard Cassard. Madame Mayan a perdu son papa, M. Sabardu, dont les obsèques ont lieu demain. Et comment commencer ce conseil sans ne pas rappeler le décès de notre maladie, Georges Rouquette, voilà, qui nous a quittés la semaine dernière et qui faisait partie du patrimoine identitaire et plus que taurin de la ville de Mobio. Beaucoup d'entre nous étaient présents et je ne doute pas que chacun ait témoigné de ses bons sentiments envers la famille, ce que je renouvelle ce soir au nom du conseil municipal. Le secrétaire de séance sera Béatrice Faucompré. Et nous avons l'adoption du procès verbal du dernier conseil que je vous propose. Ce dernier conseil n'ayant pas fait l'objet de manifestations d'observations écrites, y en a-t-il en séance? Non. Bon, je vous remercie, donc je le considère définitivement adopté et sans réserve. Donc nous commençons l'examen des points du jour avec les décisions municipales en pages 6 et 7, 8 et 9, relatives aux différentes décisions que l'Assemblée délibérante m'a permis de prendre, lesquelles sont souvent relatives à des contrats ou à des marchés publics. Monsieur,
je voudrais avoir quelques précisions sur les décisions d'ester en justice.
Oui.
Il y en a trois, il me semble.
Oui.
Donc, la première décision d'ester en justice pour pouvoir une cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers. Quoi. Et après, c'est les intérêts de l'affaire Bérenguer. Et l'autre, décision d'ester en justice. Le refus de délivrance du permis de construire, c'est bon.
Voilà, c'est une personne qui conteste le refus de délivrer un permis de construire. Le permis de construire est donc mentionné. Quand on est attaqué, il nous faut bien sûr un avocat.
Je suis d'accord avec vous. Et l'autre, désignation de l'avocat pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire TA 180-486, c'est bon.
Il y a eu effectivement une décision par rapport à un contentieux avec un agent communal, et il y a eu un retrait de la procédure, mais il fallait quand même payer l'avocat. Voilà. Donc,
on paye beaucoup les avocats.
Ben, malheureusement, alors, c'est pas moi qui peux le dire, effectivement, nous avons un service juridique qui fait de son mieux, et souvent, les gens sont très procéduriers, ce qui relevait parfois du bon sens, aujourd'hui, est systématiquement introduit dans les mains d'un avocat, notamment, par exemple, tout ce qui est contentieux d'urbanisme, ou bien entendu, je peux comprendre le déplaisir que peut provoquer l'édification d'un bâtiment à côté d'un lieu qu'on a toujours connu ni écouté. Pour autant, nous essayons, toutes les fois qu'il y a un projet d'urbanisme, d'inciter le porteur du projet, que ce soit un promoteur ou un particulier, à faire une réunion avec le voisinage, ce que nous essayons de faciliter. Et c'est ce que nous faisons toutes les fois qu'il y a des opérations d'aménagement qui changent les habitudes, effectivement. Voilà. Cela dit, au regard du nombre de délivrances de permis, au regard du nombre de projets et au regard du volume d'activité de la commune n'est pas réputée comme une commune procédurière et l'utilisation de l'argent public en matière de protection juridique, j'allais dire, n'est pas galvaudée. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, vous ne verrez pas dans la presse, jusqu'à présent on n'en a pas vu en tout cas, et je doute qu'il y ait demain des procédures et des contentieux sur des recours, sur des procédures qui ne sont pas correctes. Le reste, J'allais dire, c'est de la vie courante. Oui et non. Enfin, c'est la vie.
Voilà. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est bon.
Pardon ? Oui, c'est-à-dire, ça n'est pas la commune qui attaque, c'est la commune qui se défend.
Voilà. Ah oui, mais voilà. La commune qui attaque, la commune qui se défend.
En matière d'urbanisme.
Je ne parle pas qu'en matière d'urbanisme, je ne parle pas qu'en matière d'urbanisme.
Voilà, ensuite vous avez dans toutes les délibérations, toutes les décisions relatives au contrat de spectacle et intervention culturelle. Je précise que ce week-end dernier nous avions la déambulation théâtrale avec le festival Pchit, la culture dans les rues, qui a connu un succès certain, malgré un temps qui ne l'était pas. Enfin, c'est un déploiement de la culture qui se rend vers les gens, et effectivement, du square de la Victoire au patio ou au château, eh bien, on a eu une chambrée confortable et de gens satisfaits. Voilà, donc ces délibérations en font partie. Voilà, puis il y a les avenants par rapport aux travaux. Voilà, si vous n'avez pas de questions particulières, je vous donne quelques précisions supplémentaires. D'abord, avec Jean Albert, vendredi 17 mai, nous avons eu le plaisir d'accueillir la Fédération française de sauvetage et de secours à Carnon, à l'ancien local des Vikings, où nous avons signé une convention avec le CREPS, une convention qui installe définitivement le pôle de France en termes de secours en mer, et on a de manière permanente maintenant, nous confortons, si vous voulez, cette vocation nautique que nous avons déjà bien aidée et que nous continuerons d'aider sur Carnon pour justement permettre à cette fédération d'avoir une base comme centre d'entraînement avec des athlètes comme Margot Fabre qui est plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe et de France. Un petit bout de femme, enfin un petit bout pas si petit que ça, mais enfin, une dame qui a bon, 25 ans, cette fille, je pense, même qu'elle en a 30, c'est pareil. Je veux dire, il y a vraiment des pointures au niveau national et international. Voilà, donc nous confortons cette installation. J'en profite également pour remercier l'association Vélo Pays de l'Or, à qui a été confiée par la commune l'animation du ramassage de cette journée environnement que nous avons connue samedi 18 à l'initiative Melgueil Environnement, excusez-moi. Melgueil Environnement, je me trompe. Vélo Pays de l'Or, c'est parce qu'il y avait une dame qui était avec nous. Oui, c'est Melgueil Environnement, dont le président M. Michard. Donc, avec à l'initiative, en tout cas à suggestion, du Conseil de développement de l'agglomération, puisque sur toutes les communes composantes de l'agglomération, cette opération s'est déroulée de 9h à 11h. Alors je ne dirais pas qu'elle a connu un franc succès, parce qu'elle a ramassé les incivilités de certains. J'aurais préféré qu'elle ne connaisse pas le succès du tout, qu'elle trouve tout propre, mais enfin, on est dans la symbolique, et j'espère que je remercie les participants, les élus qui ont participé, et j'espère que cette démarche fera école et qu'elle sera plus dans la prévention que dans la remédiation dorénavant. Nous y travaillons. Une autre information donc relative à la saisine de la commission consultative des services publics locaux pour la délégation de gestion du port de Carnon ou la SPL Loire Aménagement. Donc il y a un report de la procédure par rapport à un chiffrage du dragage du port qui n'est pas aujourd'hui arrêté. C'est-à-dire que le dragage qui se fait tous les 4 ou 5 ans, ou qui pourrait se faire selon des occurrences à définir, peut-être même 10 ans, ça dépend, est une imputation budgétaire qu'on réglait avec un chèque de 400 000 euros ou 500 000 euros. Aujourd'hui, les premiers chiffrages étaient à 2 millions, 2 millions et demi, puis c'est monté à 6 millions. Donc, c'est en train peut-être de redescendre avec un procédé qui nous évitera le transfert avec le clapage à mer. En fait, on n'est pas arrivé techniquement à connaître de manière définitive le prix du dragage des 30 000 mètres cubes de sédiments dans le port. À ce titre, le dispositif contractualisable avec la SEPL ne pouvait se faire en termes de portage de risque parce que ça forçait complètement les données. On ne peut pas, 6 millions, c'était plus que le bénéfice potentiel que le contrat aurait pu générer entre la commune et la SPL. Donc, je pense que de manière très sage, nous y renonçons provisoirement, en attendant d'avoir réglé ce sujet. Je précise que, avec le maire de Pérol, M. Jean-Pierre Ricot, qui connaît les mêmes difficultés que Carnot, que nous, que notre commune, nous avons déjà écrit au président du CIMBO, lequel président, Claude Barral, préside une structure qui est tout le bassin versant du Pays de l'Or. Une structure qui est composée de communes qui génèrent, par l'apport des pluies et des cours d'eau, les sédiments dans le port de Carnot. Que par le passé, l'État draguait l'étang, et qu'aujourd'hui, il ne drague plus rien, que c'est à la charge du port, et que le dragage du port n'est simplement pas une question de navigabilité pour certains bateaux, mais également une question d'environnement. Donc, nous souhaiterions élargir l'assiette des contributeurs à cette opération dans des proportions et des dispositions qui conviendront de discuter. Voilà. Monsieur Pradeille ?
Oui, moi je soutiens tout à fait votre option de sagesse, le temps d'y voir plus clair.
Ben oui.
Ça me convient tout à fait. L'État va vous répondre qu'il a mis en place ce GEMAPI pour traiter ce genre de problématique. Et moi, je pense que ça se discute, mais on pourrait aller sur un financement GEMAPI. Je pense qu'il faudrait, travailler juridiquement là-dessus, puisqu'on est, vraiment dans la zone. D'ailleurs, est-ce que le CIMBO ne marche pas à GEMAPI? Est-ce qu'on ne fait pas un reversement?
De mémoire, non.
On ne flèche pas à l'aglo,
De mémoire, non. De mémoire, non. Les contributions au CIMBO se font par le biais du CIATE. En fait, ce sont des contributions financières intercommunales, mais au départ financées par les communes, comme le CIATEO. Il y a des participations qui sont prélevées en amont sur les participations dans la commission de transfert des charges, Caroline, c'est ça? Voilà. Donc, j'en ai parlé à la communauté d'Aglo. C'est pas la première chose à laquelle ils pensent, de donner une contribution financière à vérifier.
Mais moi, je pense qu'il pourrait y avoir une contribution croisée de GEMAPI Métropole et GEMAPI Pays de l'Or.
Oui, non, mais la GEMAPI, j'allais dire, elle est universelle.
Oui, mais enfin, ils prélèvent la leur et nous la mettent, mais ce sont quand même. C'est quand même leur bassin versant.
Tout à fait.
On a quelque chose à travailler. Dans le même état d'esprit, j'ai vu dans la presse qu'il y avait un stock de sable au Gros du Roi, enfin à Port Camargue, que Port Camargue était en train de s'ensabler. Et nous, nos plages à nous se déchargent. Et on a un syndicat qui a déjà fait une opération pour aller récupérer du sable et pour recharger nos... Est-ce qu'il n'y a pas une manne là d'État à les récupérer pour monter l'opération?
Alors, effectivement, ce genre de question, immanquablement, on l'aborde dans le cadre du sillon des communes littorales de la Vallée des Gomortes. Parfois, on se heurte à des difficultés de granulométrie, mais ça fait partie, justement, ce qui pour les uns est un déchet et qui pour les autres devient une ressource. Voilà. On travaille là-dessus, effectivement.
Oui. Et l'État n'intervient pas?
Alors, d'une manière générale, sur la protection du trait de côte, tout ce qui est fonds européens et contrats plan État-région est subventionné à hauteur de 80%, et 20% reste à la charge des communes, à proportion, à hauteur des travaux induits dans chaque commune. On mutualise les études. En revanche, on personnalise les dépenses inhérentes aux travaux. Voilà, on y est dessus. Oui. Quatrième point, donc, c'est une information. Alors, on aura ou pas un passage en conseil municipal au mois de juin, on ne le sait pas encore. J'informe le conseil municipal d'une décision qui a été prise dans le cadre du conseil d'administration de l'association Les Aiguerelles, à savoir la cession de l'EHPAD, le transfert de gestion de l'association des Aiguerelles à la Croix-Rouge française, dans le cadre, je donne quand même quelques explications, dans le cadre d'un projet médico-social caressé depuis des années, d'abord d'une manière intercommunale, puisque les contacts avec la Croix-Rouge datent de plusieurs années, ils datent pas loin de 7 ou 8 ans. Donc nous essayons de mettre en place, en fonction des bassins gérontologiques, une offre de soins où il était question de conforter le bateau amiral, comme a l'habitude de dire Claudie Jarry, l'ambassadeur de la Croix-Rouge, qui est les Aiguerelles à Moguiot, et on devait avoir un centre éventuellement de soins, un EHPAD ou un EHPAD à Saint-Aunès et peut-être un autre à Valerque. Puis, une fois passé par les fourches codines des autorités de tutelle, que sont l'Agence régionale de la santé et le conseil départemental, qui sont aussi les financeurs, en dehors des familles, qui sont des contributeurs financiers, le projet médico-social, ensuite, il prend une tournure qui sera celle qui a été retenue, à savoir un projet concocté entre Moguiot et Cournon-Terral, où au départ nous avons 86 lits dans l'EHPAD de Moguiot. Nous donnons 9 lits, enfin nous donnons 9 lits sont transférés à Cournon-Terral pour dégager des espaces et pour diversifier l'offre de services. À Moguiot, nous avons la création de 3 places d'hébergement temporaire, ce qui accorde un répit aux familles qui ont en charge des gens en maintien à domicile, qui sont la formule la plus utilisée, j'allais dire. En deuxième lieu, il y a la création d'unités de vie Alzheimer avec 15 places et la création d'un pôle d'activité de soins adaptés, un PASA qu'on appelle, dédié aux résidents qui ont des troubles du comportement modérés. On leur propose des activités thérapeutiques, des activités sociales. On leur propose des thérapies collectives ou individuelles selon, pour essayer de maintenir ces personnes avec le maximum de capacités fonctionnelles et également de favoriser le lien social. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est une offre au sein de l'EHPAD, une offre, un élargissement de l'offre médico-sociale. À cela, la contractualisation avec la Croix-Rouge prévoit la création d'une résidence autonomie, c'est-à-dire, à côté de l'EHPAD, un terrain sera dédié à la construction de 57 logements pour les personnes qui sont éligibles, comme les autres résidents, à l'aide sociale, avec un prix modéré, c'est moins de 900 euros, avec hors APL. Là, ce sont les gens, si vous voulez, qui ne sont plus en maintien à domicile, qui sont encore suffisamment valides pour n'être pas dans cet ultime accueil que représente l'EHPAD, où le degré de dépendance, le GIR, fait qu'on s'occupe plus ou moins d'eux et que le prix de journée, lui, ne sera pas changé par cette transmission. Il sera toujours à 65 euros et des brouettes. 65-71, pour être exact, le prix de base. Voilà. Et donc, le but est d'arriver à créer ce qu'on appelle un parcours résidentiel, c'est-à-dire la personne est chez elle, maintenue à domicile, quand c'est difficile, elle va à l'EHPAD. On peut avoir aussi dans un couple de personnes âgées, une personne plus ou moins dépendante, il peut y avoir un dans l'EHPAD, l'autre dans l'EHPAD. Enfin, ce sont des transitions difficiles, mais enfin, qu'il convient d'accompagner. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, aujourd'hui, nous avons donc le conseil d'administration a pris cette décision, tant il est vrai que depuis une dizaine d'années, et même je dirais dans les précédentes mandatures, nous avons toujours apprécié la gestion par le foyer des Aiguerelles de la maison de cette résidence pour personnes âgées dépendantes, en regrettant le manque de complémentarité, notamment au niveau des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Ce dont je n'ai pas parlé également, c'est de la possibilité d'un accueil de jour. Cet accueil de jour permettra, si vous voulez, une certaine porosité entre ce monde qui est parfois un vase clos, le monde des personnes très âgées, et ce monde des actifs ou des gens, même s'ils ne travaillent plus, même s'ils sont retraités, et tant mieux qu'ils en profitent, peuvent de temps en temps aller prendre un repas, aller passer une après-midi récréative, puisqu'il y a des animations à la maison de retraite, pour que quelque part il y ait une forme de régénération, ce qu'on essaie de favoriser dans le côté intergénérationnel dans la proposition de logements nouveaux, comme on fera la forme, eh bien on le propose aussi en termes de régénération de l'âge des résidents et de la formule d'accueil. Voilà. Ça nous a été demandé par de nombreuses familles et nous avons potentiellement sur le territoire le nombre de personnes pour cela, de clients potentiels. Ce n'est pas des clients, ce sont des patients. Voilà. Nous avons la patientèle. Voilà donc les raisons qui ont présidé à cette démarche et je terminerai en disant que depuis la fin de l'année 2017, la Croix-Rouge, en mandat de gestion, c'est-à-dire que c'est elle qui gère, avec bien entendu notre personnel de l'association, elle gère de manière comptable, juridique et médico-sociale, elle encadre avec son staff et sa logistique, elle encadre le fonctionnement de la maison, l'ancienne maison des anciens combattants, et qu'aujourd'hui, ce partenariat nous a permis de vérifier le bien fondé de la transaction qui devrait se passer au 1er juillet 2019. Voilà l'information que je voulais vous donner. Madame Grèce ?
Oui, je tiens à souligner que lors de ce conseil d'administration, je vous ai dit que j'étais tout à fait favorable à ce que la gestion de la maison de retraite de l'EHPAD soit confiée à la Croix-Rouge et qu'en revanche, au nom de la fabrique, nous étions absolument contre la vente de ce patrimoine. Voilà. Je vous ai dit que nous arrivions, les emprunts qui avaient été faits pour la restructuration arrivaient à terme et qu'il serait peut-être intéressant de refaire un emprunt pour les travaux à venir.
Et je vous ai répondu, Madame Grèce, que si vous aviez la bonne idée, nous étions preneurs, en sachant que ce projet, on ne l'a pas inventé un matin en se levant. C'est un partenariat avec les autorités de tutelle que sont l'Agence régionale de la santé, le conseil départemental, qu'il remonte à plusieurs années, et qu'effectivement, cette contractualisation, cette vente, permet d'offrir non pas un accueil de 89 personnes, mais un accueil de, pas le double, mais 540 personnes, dans une transition. Vous l'avez bien compris, d'un parcours résidentiel. Après, c'est votre droit.
Oui, et juste une autre petite question qui concerne l'emprise, le terrain d'emprise de la future résidence autonomie. Sur le document que vous nous avez donné là, de l'ARS, l'emprise foncière est de 3507 euros, alors que sur le document. Pardon 30 mètres carrés, pardon, pour 730 000 euros, alors que sur le document sur lequel nous avons travaillé lors du conseil d'administration, l'emprise de terrain était de 4 838, c'est-à-dire qu'il y a une différence de 1 800 mètres
carrés. Bon, alors il s'agit depuis l'autre jour.
Alors quelle est la bonne?
Nous avons si vous incluez la vente des logements, on a deux logements qui ont été estimés à 187 000 euros.
Oui.
Voilà.
Vous parlez mais moi, je parle de l'emprise.
Sur la partie littéraire.
4 000, alors 4 000.
Dans les deux documents, il n'y a pas la même surface.
Non.
Oui, on retire l'emprise des villas.
On retire l'emprise des
villas. On retire. Dans le comptage, Bernard, si tu t'es occupé, tu peux te prendre la parole. Si tu veux bien.
Oui, effectivement, dans cette emprise de, je ne sais combien vous dites, il y a les villas, effectivement. Donc, les villas n'étant pas vendues en même temps que le terrain en question. Non, mais c'est deux opérations différentes. Donc, il y a une opération de vente du terrain et une opération de vente des villas.
D'accord.
C'est vendu en même temps, mais il y a, c'est scindé en deux parties.
OK.
Voilà pourquoi.
Non, mais il reste une erreur d'écriture, hein, vous le regarderez. Mais... Entre les deux documents, il y a une différence.
Oui, il y a une différence.
Oui, le notaire, s'il y a toutefois une approximation à vérifier, bien sûr, sera chargé de la régularité de cette exécution. Voilà, donc c'est un porté à connaissance avec les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il n'est pas impossible, en fonction de ce que dira la législation, que nous passions au mois de juin une autorisation, une délibération qui autorise le CCS à procéder à cette vente. Voilà. Donc vous serez bien entendu informé et les choses se feront à lieu en toute transparence. Nous passons maintenant.
Juste apporter le complément de réponse que j'ai le document sous les yeux. En fait, dans le document qui a été évoqué dans le cadre du CCAS, que je retrouve la ligne, il est écrit construction d'une résidence autonomie développant 57 logements sur une surface de plancher de 3057 m² sur une superficie foncière de 4838 m².
Et donc c'est
voilà.
D'accord.
Et c'est
tout la question. Au prix où ils sont payés, je pense que les notaires ont dû bien travailler. Et nos avocats aussi. Bien. Merci pour ces précisions. Point numéro 1. Élection du représentant de la commune au conseil d'administration, assemblée générale et du comité d'engagement de l'ASP et leur aménagement. En deux mots, nous avons connu la démission d'un titulaire qui était M. Alain Foucaran au sein de l'Assemblée, la société et leur aménagement. Le conseil communautaire a désigné M. Cassard comme nouveau représentant de l'agglomération au conseil d'administration de leur aménagement. Donc, M. Cassard étant déjà ne pouvant pas siéger en tant que délégué communautaire et en tant qu'élu municipal, il convient de nommer un suppléant, un remplaçant à M. Foucaran. Donc, il y a Monsieur Cassard. Donc, à remplacement de Monsieur Cassard, je vous propose la candidature de Monsieur Balsamo. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Bon, est-ce qu'on peut voter? Si tout le monde est d'accord, on va voter à main levée. Donc, je propose la candidature de Monsieur Balsamo comme nouveau représentant de la commune au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et du comité de suivi et engagement de la société. Qui est contre? Et même... L'autre, c'est quoi? Et comme nouveau représentant des communes au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et du comité de suivi et engagement de la société. Voilà, j'ai tout dit. Voilà. Donc, M. Balsamo, le candidat au port et la... La société travaille beaucoup avec le port. C'est cette proposition que j'explique, que j'expose. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, M. Balsamo, faites partie de la société publique au camp d'aménagement.
Merci, monsieur.
Je compte sur vous pour le représenter dignement, ce dont je ne doute pas un seul instant. Point numéro 2. Autorisation de signer l'accord cadre avec l'entretien des espaces verts. Alors, c'est un marché réservé. C'est-à-dire que l'entretien des espaces verts est un marché qui est signé avec des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées défavorisées. C'est un marché de 1 an, renouvelable 4 fois, donc un marché de 4 ans. Et après consultation, c'est l'ESAT de Castelnau-Lanvol qui a été attributaire avec un montant minimum de 67 000 euros hors taxes, un montant maximum de 80 000 euros hors taxes. Je précise que l'ESAT l'envole et celui qui déjà entretient par ailleurs les sanitaires, les espaces publics également, à Mouguio-Acarlon, et qui nous donne entière satisfaction. Voilà. Donc je vous propose de retenir cette étape. Contre, abstention, je vous remercie. Et Caroline Fabier va nous parler d'une modification, d'une décision modificative au budget principal de la commune.
C'est ça. Donc la première décision modificative, il s'agit d'un remboursement de la part de la Direction générale des impôts de 30 000 euros. C'est un remboursement des taxes d'aménagement, tout simplement parce que certains habitants déposent des permis de construire, ne font pas les travaux dans l'année qui suit, et il faut leur rembourser la taxe d'aménagement qu'ils ont versée, tout simplement. Ça représente un montant de 30 000 euros pour 10 habitants de Mogio. Donc nous avons besoin de votre accord.
Très bien. Qui contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une autre décision par rapport au budget annexe de la régie du port de Carnon.
C'est ça, cette fois-ci par rapport au port. Donc là, c'est parce que le port va bénéficier d'une subvention donc amortie sur 20 ans. Donc c'est pour cette raison qu'il y aura 2500 euros de versés au budget en plus. Alors 2500, c'est évidemment pas le montant de la subvention totale qui était de 58 000 euros sur 20 ans. Donc on vous demande l'accord d'intégrer cette subvention par une modification du budget.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Une garantie d'emploi maintenant pour l'acquisition en VFA de 23 logements. La résidence Les Capitelles est située rue Peyre-Blanc à Mogio.
C'est ça. Donc c'est pour la société Promologie qui sollicite la commune de Mogio pour accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75%. Donc, comme disait Monsieur le maire, c'est une acquisition en BFA pour 23 logements. Nous avons des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration. Et on nous demande donc de garantir les prêts. Juste une petite précision, pénalise, si on peut dire entre guillemets, pas les ratios galants. Donc nous avons besoin de votre accord.
J'ai juste une question. Est-ce que vous savez à combien ils ont été vendus au mètre carré, ces logements?
Oui, moi j'ai le détail des prêts là, sous les yeux.
Il n'y a pas le prix.
Là c'est réglementé.
Ah oui, c'est réglementé.
La charge foncière, la charge de. Oui, la charge
des. C'est l'obligation des bailleurs.
D'accord.
Là on parle que de logements aidés.
Oui, oui, je sais.
En principe, ça devrait être livré en fin d'année à peu près.
Fin d'année.
Mais ça va assez bien. Nous, on souhaite que ça le soit le plus tôt possible, pour que ce soit comptabilité dans les logements, les logements aidés. Ça va, en principe, oui. Voilà, donc je vous invite à voter cette garantie d'emprunt. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6, c'est Laurence, Madame Gély, qui va nous parler de l'approbation du compte administratif 2018 de l'OMT. Et du budget primitif 2019.
Merci. Alors, la section fonctionnement. Les recettes de l'exercice 2018 se sont élevées à 623 751,18 euros. Elles sont composées des encaissements suivants. Alors, il y a une partie subvention municipale pour 140 kg euros. Taxe de séjour et droit de mutation 213, droit de mutation 242 et vente de produits et prestations de services 15. Les dépenses de l'exercice 2018 se sont élevées à 642 173,80 euros. Bien que les charges aient été maîtrisées, l'Office du tourisme a réalisé un déficit sans surprise de 18 422,62 euros, car il faut savoir que la subvention municipale 2018 prenait en compte l'excédent 2017. En effet, grâce à cet excédent important de 2017 de 179 274,61 euros et malgré le déficit de 2018, l'année se termine par un excédent de 160 851,61 euros. 99. Merci. Il y a mon voisin qui suit. Pour l'année 2019, le budget primitif de l'Office de tourisme proposé est de 731 851,99 euros pour la section de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, les recettes de l'exercice s'élèvent à 12 872,44 euros pour des dépenses de 5 173,41 euros. L'excédent de l'exercice auquel s'ajoute celui de 2017 porte excédent de clôture de la section d'investissement à 17 784,26 euros. En reportant les annuités d'amortissement, le budget primitif 2019 de la section d'investissement s'élèvera à 38 500 euros. Le budget primitif 2019 de l'Office municipal de l'ONC s'établit à 731 851,99 euros pour la section de fonctionnement et à 38 500 pour la section d'investissement. Il intègre les résultats du compte administratif 2018. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les comptes de l'ONC de Carnon, votés par son comité directeur le 29 mars 2019.
Merci Laurence. Des questions sur cet exposé ?
Monsieur le maire, excusez-moi, oui. On pourrait connaître les raisons du déficit 2018 ?
C'est qu'on le prend en compte en fait.
Oui, oui.
C'est-à-dire que pourquoi il y a un déficit ? Ben parce qu'il y a toujours une part de taxe de séjour qu'on prend en compte et on ne sait pas à combien elle va s'élever à la fin. Elle est en constante progression, mais là elle a été moins importante que ce qu'on avait anticipé.
Elle a été surestimée.
Comment ?
Elle a été surestimée, la taxe de
séjour. Oui.
Bon, d'accord.
Non, mais. Je veux pas 18 000, c'est. Il n'y a pas de problème, mais. Enfin, on a voté le budget en équilibre, hein, et c'est la première fois que je vois un déficit qui remonte de l'OMT, hein, à peine dans le mandat.
Non, mais c'est pas.
Mais chaque année, on vote toujours des. Sans trembler, des budgets en équilibre. Donc là, si on est à moins de 18 000. Oui, non, mais. On va pas. Non, mais là, on ressort à moins de 18 000. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on a voté en début d'année. Donc c'est le truc de on avait anticipé l'explication me semble nécessiter peut-être un autre angle. Mais celui-là, non, on peut pas l'accepter. Le fait de on l'avait prévu, moi j'avais pas prévu ça en vous accompagnant et en votant le budget d'équilibre. À côté de ça, 18 000, c'est au niveau du budget de la ville, c'est gérable, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous me dites que. J'aurais préféré que vous me disiez, on a mis de la gomme sur deux manifestations, et j'aurais dit super.
Je vais demander à Mme Bach, notre directrice, notre DGA aux finances, de nous donner l'explication précise.
C'est pas réellement un déficit, c'est-à-dire que les recettes de l'exercice et les dépenses de l'exercice sont équilibrées, mais on a utilisé le financement de l'excédent reporté de l'année N-1 pour financer l'exercice.
D'accord.
Donc il n'y a pas réellement un déficit.
On voulait cliver un.
C'est juste que comptablement, effectivement, si on prend l'exercice seul, dépenses et recettes, on a un déficit, mais il est financé par l'excédent de l'année précédente. Le budget est complètement équilibré. Ça évite de donner une subvention supplémentaire alors que finalement il y a un excédent
niveau l'année entière. Et je précise que cette année, l'OMT a moins sollicité l'abondement par la commune d'une somme de ces 170 000. Elle a sollicité, parce que la taxe de séjour était plus importante, vous avez un budget qui était moins abondé par la commune de 30 000 euros. Oui, oui.
Plus on se parle et moins je comprends. Moi, ce que j'avais. Attendez, faisons les choses simplement pour faire vraiment que de la politique. La taxe de séjour est en croissance. La subvention de la ville, parfois, a été en décroissance. J'ai cru comprendre lors du dernier budget qu'on l'avait stabilisé pour accompagner le mieux possible l'OMT.
Absolument.
C'était une politique que moi je soutenais.
Absolument.
Monsieur le maire, vous n'êtes pas en train de me dire entre deux phrases qu'on a rebaissé la subvention en OSDE. On continue à les accompagner, il faut les accompagner. Mais si vous faites une animation de plus, c'est bien. Ils ont besoin les commerçants à Carnon qu'on les épaule. Moi, je soutiens cette politique-là.
et elle va rester équilibrée, la nouvelle subvention.
C'est le cas. C'est plus une question d'écriture qu'une question de réalité. Il n'y a pas de...
Voilà. C'est peut-être que l'écriture qu'on faisait avant, elle était mieux. Celle qui avait un administratif, on reportait. Elle était plus lisible. Elle ne faisait pas apparaître des moyens un peu informatiques. Oui, oui, mais fait, j'aimais bien mon celle d'avant. Elle avait une petite côté transparente qui m'allait bien.
Bien. On va... On va s'efforcer de garder davantage de lisibilité et l'étude de tourisme qui est aujourd'hui menée sur Carnon va nous inviter, en tout cas j'en fais le vœu, à investir davantage sur justement la montée en puissance de l'office qui a déjà commencé avec la destination pour tous, mais avec également un site internet et des préconisations. Et une envie aussi partagée autant par les élus que par les élus que par le service, justement, de mettre en avant la ville de Carnon dans les années qui viennent. On va avoir, dans le cadre de mon vieux Carnon 2030, des informations, des décisions à prendre dans ce sens. Oui.
Excusez-moi. Et avec un retour de satisfaction des usagers qui tapait entre 80 et 90% systématiquement sur tous les items. Et on avait un item à 60% en disant qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus d'animation. C'était ça, hein, si, mais donc, si on va dans ce sens-là, c'est, on ne faut plus jouer. Après,
on viendra vers vous, il y a des préconisations, justement, sur peut-être les lieux, peut-être pas plus, mais mieux, et différemment, peut-être. Mais ça concerne également, c'est valable également pour tout ce qui est investissement de l'espace public, tant des manifestations, menées par l'OTE, par la commune, le service culturel, le service de festivité, tout ce qu'on voudra. Il y a des préconisations là-dessus sur lesquelles nous travaillerons. En tout cas, ça ne va pas diminuer. Bien, cela dit, je vous invite à voter ce budget. Et c'est deux choses. C'est l'approbation des comptes administratifs et le budget primitif 2019. Qui est contre? Ne prends pas part au vote. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, nous voudrons l'entrée en liste de M. Cassard sur la ZAC de Fond de Mouguillon, Bernard. Il s'agit d'une autorisation donnée à la SPL pour intervenir sur le périmètre extérieur à la ZAC.
Je vous passe tout l'historique et je vous dis que dans le cadre de l'opération d'aménagement de la Fond de Mouguillon, une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces animales protégées a été sollicitée auprès du Conseil national de la protection de la nature. Cette dérogation a été accordée par arrêté préfectoral du 14 janvier 2019, sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales sur une durée de 30 ans. Il convient donc d'organiser la mise en œuvre opérationnelle de ces mesures, en, d'une part, mettant à disposition de la SPL leur aménagement des terrains communaux qui, d'une superficie de 9,87 hectares qui sont situés en dehors du périmètre de la ZAC. Or, la concession, dans son article 11, la concession qui nous lie à leur aménagement, prévoit qu'elle a le droit d'intervenir sur les terrains à l'intérieur de la ZAC, mais pas à l'extérieur de la ZAC. Donc pour permettre de mettre en œuvre ces dispositions environnementales, il convient d'autoriser la SPL à intervenir sur des terrains situés hors de la ZAC.
Donc c'est l'objet de l'avenant numéro 4.
Oui, je voulais faire une remarque sur ce sujet. Donc je vous rappelle que ces terrains, pour ceux qui l'auraient oublié, on les avait vendus à leur aménagement, à un certain prix, 2,5 millions, je crois. On les leur a rachetés, 500 ou 600 000 euros, et maintenant on va les leur redonner, mais gratuitement. Donc ça veut dire qu'au passage, le contribuable melgorien, il perd 600 000 euros. Déjà que la ZAC, elle a perdu 2 millions d'euros dans l'affaire, ça fait un peu rire tout ça, et c'était assez prévisible, somme toute. Donc il ne faut plus continuer à dire que la faune de Mongueux ne coûte rien au contribuable melgorien. Je voudrais vous dire en passant que sur ces terrains, j'ai fait un recours contre l'enquête agricole que vous avez fournie lors de l'enquête sur la ZAC. J'ai fait ce recours parce que ces 10 hectares, vous ne les avez pas inclus dans l'enquête agricole. Voilà. Et que finalement, ils reviennent.
Monsieur Bourguet, que vous soyez contre, c'est votre affaire. Que vous disiez que le contribuable belgorien perd de l'argent dans cette affaire.
Ben oui, ces 600 000 euros là, c'est ces terrains là.
C'est une sottise de plus grande que vous.
Non, 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 c'est une vérité. Monsieur Bourguet, c'est une vérité. Ces 600 000 euros, vous allez les revendre de nouveau à leur aménagement?
Attendez. Je ne rentre pas dans une...
Non, mais alors ne dites pas que c'est des sottises.
Mais si, je le maintiens.
Mais non.
L'opération est une opération, c'est un peu comme le budget assainissement ou assainissement, c'est un budget propre. C'est un budget qui est...
Non, là, c'est notre argent, c'est pas l'argent de la ZAC. C'est pas l'argent de la ZAC. C'est comme le fossé, comme les millions du fossé.
Monsieur Bourguet, puisque vous avez du temps, vous consulterez les documents financiers, vous regarderez à quel moment l'argent public a été utilisé.
Là.
Pour payer, mais pas du tout. Au contraire, la commune a fait une affaire puisqu'elle a acheté des terrains. Elle a revendu un terrain cher alors qu'il n'est pas cher. Donc, c'est une opération.
Et on le redonne gratuitement.
Non, on ne le redonne pas. On l'autorise à intervenir.
Oui, pour 30 ans.
Il y a un plan de gestion qui coûtera 330 000 euros, ce à quoi nous oblige l'État. Mais l'opération est ainsi faite que tous les frais inhérents à l'achat, à la revente, à tous les frais financiers depuis le début, sont portés dans un budget qui est celui du CRAC, qui sera bientôt porté à la connaissance de la commune, le compte rendu annuel d'activité, dans lequel vous pourrez tout consulter. Et vous pourrez...
Y compris la valeur de ces 10 hectares, y compris le fossé, non.
Mais écoutez...
Mais monsieur Bourrel, je sais bien que c'est pas vrai. Mais
attendez, non. Je ne vous permets pas de me traiter de menteur, monsieur.
J'ai rien dit.
Voilà, mais il vaut mieux. Merci. Affaire reclose. Monsieur Cassa.
Ces terrains ne sont pas redonnés à la SPL. Ils sont mis à disposition.
Oui.
Ils sont mis à disposition.
C'est pareil pour moi. Pour 30 ans. Et dans 30 ans, ils seront obligés de continuer.
Si. Laissez-moi vous expliquer, monsieur, s'il vous plaît. Ces terrains sont mis à disposition pour 11 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la concession qui nous lie la SPL et nous.
Mais il faut continuer le projet pendant 30 ans.
Laissez-moi finir. Ces terrains sont mis à la disposition pendant 11 ans, jusqu'à la fin du traité de concession. Ces terrains reviennent après à la commune qui doit continuer effectivement jusqu'à la fin des 30 ans les mesures environnementales. Pour cela, la SPL a prévu de confier la gestion de ces mesures environnementales au, je ne sais jamais ce que ça veut dire, au CEN, au Conservatoire des Espaces Naturels. Cette opération va être entièrement payée par la SPL au départ du contrat avec le CEN. C'est-à-dire que nous, communes, nous allons reprendre les terrains au bout des 11 ans, pardon, mais nous n'aurons aucune charge. C'est le Conseil environnemental qui va continuer la gestion puisqu'il a été payé pour 30 ans par la SPL. Voilà.
Mais on ne pourra toujours rien faire de ces terrains qu'on a achetés, que le contribuable a achetés. C'est le contribuable qui les a achetés.
J'ai reventilé dans l'opération et tous les frais. Il n'y a pas un sou, mais écoutez, allez voir M. Souverville, tant qu'il est là, il vous l'expliquera.
Allez. Et allez y faire.
Monsieur Pradelli.
Excusez-moi, mais je voudrais bien qu'on cadre la question qui vous est posée. Oui. Vous nous demandez d'autoriser la SPL de gérer les terrains pour les mettre à disposition d'espèces pour des raisons environnementales.
Oui.
Donc c'est pour loger les grenouilles, les lézards,
pour protéger les
éléphants
en espace naturel.
Donc ça va être naturalisé.
Oui, c'est pour ça que la SPL le confie au Conseil. Des espaces naturels.
Moi, je fais une explication de vote. J'ai vraiment envie de vous embêter sur la forme de Mugio, mais à côté de ça, comme on est la veille des élections, si vous me demandez de protéger des espèces naturelles, je ne peux pas voter contre.
Avoir une précision.
Donc, comme moi, je suis un écolo modéré, mais un écolo quand même. Si vous protégez des espèces en termes naturels, je ne vois pas comment je peux faire autrement
Je suis d'accord avec toi, Laurent, on va protéger les grenouilles. Par contre, ça veut dire quoi?
Attends,
exactement, c'est pas naturel. Non, ça, ça, je sais pas, ça veut dire, sur ceinture, vous avez l'intention de faire quoi des marais, vous avez l'intention de faire quoi une roselière, vous avez l'intention de faire quoi?
Rien.
Non, mais rien, c'est-à-dire des terrains jachères.
Faut...
On a des bassins de rétention.
Des terrains de pâture. Non, on n'a pas le droit de toucher.
Non, mais alors c'est quoi
des... C'est des terrains de pâture. C'est des terrains, il y aura
des terrains qui seront en jachère, qui seront abandonnés, livrés à eux-mêmes.
Non.
Non, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes puisque je viens de. Ils ne seront pas livrés. Vous dites qu'ils seront livrés à eux-mêmes, c'est ça. Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes puisque c'est le conservatoire des espaces naturels qui va gérer.
Non, mais une pâture, ça veut dire c'est un terrain qui est clôturé avec des animaux dessus. Ça, c'est une pâture. Un terrain jachère avec une roselière, c'est pas du tout la même chose. Et les espèces, c'est pas les mêmes non plus. Donc, moi, j'aimerais avoir des précisions là-dessus.
Alors, une précision. Je vais vous en donner une, par exemple, sur la ferme permacole qui aura là-dessus, avec un projet sur lequel on est en train de travailler, pour justement travailler la permaculture sur un espace avec une agriculture raisonnée, sans aucun produit phyto. Ça va faire partie, si vous voulez, des mesures compensatoires qui vont être apportées.
Ça, c'est des terrains agricoles.
Non, ça sera sur ces terrains-là aussi. Sur ces terrains-là, ils incluront cette expérience de ferme permacole.
Ouais, mais c'est plus une espace naturel, alors.
Aujourd'hui, moi je ne peux pas vous répondre quelles seront les mesures que le conservatoire des espaces naturels va mettre en œuvre pour protéger les espèces. Mais qui, on vous demande d'autoriser la SPL à intervenir sur des terrains qui ne sont pas dans le périmètre de la DAC. Voilà ce qu'on vous. Et ben c'est la seule question qu'on vous pose. Je vous réponds, les mesures qui seront mises en œuvre, ce sera les mesures faites par le conservatoire d'espace naturel qui n'est pas là et qui ne peut pas vous dire ce qu'il envisage sur ce terrain. Je ne le sais pas non plus.
Alors, je donne la parole à M. Capelletti puis Mme Legault. Oui, bonsoir. Monsieur Capelletti.
Donc, comme vous le savez, depuis qu'il a été redimensionné, je suis pour, avec mes amis, le projet de Mouillot. Et cette proposition-là, effectivement, pour des raisons écologiques, me semble assez évident à accepter et à valider, sauf si on est contre, effectivement, la protection des espèces protégées. Néanmoins, pour que tout le monde comprenne bien autour de cette table...
Là, tu portes,
néanmoins, autour de cette table...
C'est des tri 75 espèces protégées, je te ferai remarquer.
S'il vous plaît, si tu votes, ceux qui votent contre ce projet sont contre la protection des espèces.
Enfin, c'est contre la destruction de 75 espèces protégées.
Un plus 5 galop, contre 75 espèces protégées.
Voilà.
Moi, je suis pour la protection des espèces protégées avec mes amis. Et avec mes amis, le conseil que nous permettons de vous donner, c'est pour qu'il y ait plus de clarté, vu qu'à chaque fois, il y a des interrogations sur... C'est régulièrement de faire, en fait, sur le projet de Fonds de Mouriot, une synthèse financière. C'est-à-dire, ça rapporte ou ça rapporterait combien aux contribuables, en fonction d'hypothèses dont on pourrait discuter, ça coûte combien, pour montrer qu'on est sur un projet, effectivement, pérenne, et éviter de passer du temps sur certaines discussions. C'est une proposition.
Nous irons vers la clarté, d'autant que le projet se décante et qu'il a commencé, que les ventes ont commencé, et qu'il va devenir opérationnel dans le courant de l'année. Madame Levaux, merci M. Capelletti.
Non, je voulais juste rappeler que quand on construit dans une commune, quand on construit des bâtiments, il y a une compensation obligatoire à verser en vertu de l'environnement et aujourd'hui de l'agriculture. Il y a deux compensations à donner. Donc on dit, on construit, ok, on détruit des espaces naturels, on détruit des espaces agricoles, donc vous devez compenser. De deux choses d'une, soit la compensation se fait financièrement, soit elle se fait en nature. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des terrains libres. Donc il était plus simple d'envisager, et moins coûteux, d'envisager une compensation en nature, pour la compensation environnementale, qu'en finance. C'est tout juste ça.
Oui, mais c'est à la ZAC de fournir les terrains, pas à nous, le contribuable melbourien.
Mais, enfin, là, je...
C'est tout.
Je redonne la main.
Je vous donne rendez-vous pour le CRAC, le compte rendu d'activité et l'officialisation des écritures. Il n'est pas du tout, il n'a pas de chance de vous dire, mais
c'est, ça c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Je vais vous demander donc de passer au vote de M. Cavenant à cette concession, l'aménagement, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie pour les autres. Bernard, tu continues s'il te plaît.
Alors, le point suivant est la suite logique de ce qu'on vient de voter, c'est-à-dire que là on a donné l'autorisation à leur aménagement d'intervenir sur des parcelles hors la ZAC. Maintenant il convient de définir quelles sont ces parcelles. Donc le point numéro 8 vous donne les parcelles qui sont concernées. Si vous voulez que je vous les énumère, je les énumère. Mais bon, parcelle CE 82, 84, 25, 24 sur l'emprise totale. La CD 17, CD 241, 20, 21, 22, 239, 23 et 243 pour son emprise totale. Et les parcelles CE 86, 88 et 92 pour une emprise partielle. Le tout étant d'une superficie globale de 9 hectares 87. Voilà. Donc il vous est proposé d'approuver la passation d'une convention de mise à disposition à la STLE aménagement de ces parcelles.
Merci Bernard. C'est la conséquence de la délibération, enfin la précision et la conséquence de la délibération précédente. Donc je vous invite à voter cette convention de mise à disposition contre. Abstention, comme tout à l'heure. Merci. Le point numéro 9, toujours Bernard.
Alors, afin de permettre la réalisation de la ZAC, la Fonde Mongio, il convient d'organiser la maîtrise des terrains d'emprise des équipements publics. Parmi les parcelles qui sont destinées à cette emprise, figure une partie des terrains d'assiette du surpresseur, avenue Jean Moulin, appartenant à la communauté d'agglomération. La maîtrise foncière de ces parcelles CE2 et 3 et 4 d'une superficie de 6063 m² est organisée selon deux modalités. La première est une cession à titre gratuit par l'agglo à la commune de 4037 m² pour des équipements non reversibles, voirie, liaison douce, bassin de rétention. La seconde étant la mise à disposition et non plus la cession pour 25 ans par convention de transfert de gestion de 2026 m² destinée à un parc de stationnement. Cette mise à disposition est réversible afin de pallier le besoin éventuel d'ouvrages supplémentaires nécessaires au service de l'eau. Conformément à l'article 6 de la convention 6 juin, la reversibilité éventuelle ne pourra intervenir qu'à la fin de la 10e année suivant la signature de la dite convention. Il vous est donc proposé d'approuver l'acquisition à titre gratuit et la convention de transfert de gestion de ces terrains.
Oui. Merci Bernard. Monsieur Bourguet.
Oui. D'abord, je voulais dire une chose à l'Assemblée, parce que je l'ai dit déjà en conseil d'agglomération, mais tout le monde n'était pas là. Donc on voit bien que l'agglomération nous met à disposition une partie des parkings avec une durée dans une situation précaire, avec une durée limitée, ce qui veut dire qu'on urbanise, on construit 750 logements et on fait 1600 m² de surface commerciale avec une partie des parkings qui sont précaires. Donc ensuite les gens iront se garer dans l'avenue Jean Moulin où on est en train de supprimer aussi des places de stationnement. Ça c'est les riverains verront après. Alors je voulais dire une chose par rapport à ces parkings. Vous avez commencé, la ZAC a commencé à faire des travaux. Je vous ai écrit en tant que PDG de leur aménagement, vous ne m'avez pas répondu. J'ai écrit aussi à Madame Sori, à la demande d'une riveraine qui habite, qui est une dame seule, qui habite en limite de ses parkings. Les travaux ont commencé et elle, comme elle habitait en bord d'une zone naturelle, elle n'avait pas de mur de clôture. Et donc maintenant, elle demande à ce qu'on lui fasse un mur de clôture. Je pense que ça serait légitime que la ZAC prenne ça à sa charge, parce que d'abord c'est une question qui paraît logique, puisque des gens qui habitaient au bord de la nature vont se retrouver au bord d'un parking. Ça pose des problèmes de vue, mais aussi des problèmes de sécurité, de pénétration sur son terrain, voilà. Donc c'est une demande, on va dire, humanitaire si vous voulez, ou légitime en tout cas.
Monsieur Bourguet, je ne vous connaissais pas ce talent d'écrivain public, mais bien entendu nous allons répondre à cette dame et faire droit à sa demande, bien entendu, l'extension de la ville ne doit pas se faire, et nous y veillons,
au détriment des populations existantes. Et vous avez pu le voir, au travers des débats que nous avons eus, l'implantation des nouvelles habitations n'est pas de nature à contrarier l'existant, au contraire, plutôt à le renforcer. C'est l'objet d'ailleurs de la requalification de l'avenue Jean Moulin, qui n'a pas l'air de nous convenir. Cela dit, c'est la dernière avenue structurante de la commune que nous avons gardée par rapport, pour la fin, par rapport à l'aménagement et l'extension qui était la seule possible à l'est, et qui aujourd'hui, une fois passés les désagréments du chantier, permettront de sécuriser à la fois les riverains, les enfants pour les écoles, et de dégager avec une avenue structurante, alors digne de ce nom n'est pas le terme, mais en tout cas avec des conditions à la fois de sécurité et paysagère, qui je pense serviront, bon, c'est pas grâce à la fond de Mouillot, mais la fond de Mouillot a été l'élément déclencheur de cet aménagement que nous avions réservé pour la dernière avenue qui n'était pas qualifiée pour entrer dans la ville. Voilà.
Donc on peut rassurer cette riveraine.
Bien sûr.
Merci.
Bien sûr, monsieur.
Oui, monsieur le maire, excusez-moi, je voudrais amener une petite objection sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites que les travaux de la fond de Mouillot n'ont pas été dans le cadre de gêner les riverains, moi je peux vous dire qu'on est gêné, absolument gêné.
J'ai pas dit ça. Si,
vous avez dit ça. Vous avez dit que vous avez fait en sorte de ne pas gêner les riverains par rapport aux constructions qui se font. Or, nous avons amené, nous, au commissaire enquêteur, des dossiers, notamment sur les problèmes d'eau de ruissellement, qui n'ont pas été pris en considération dans la construction des appartements que vous allez faire, pas sur la fond de Mouillot, mais sur la pointe de Mulhouse. J'insiste là-dessus, parce que c'est derrière chez moi, et on n'a aucune garantie aujourd'hui d'avoir des possibilités d'évacuation d'eau par rapport aux constructions qui vont être faites sur ces terrains. Donc, le désagrément, on l'a en ce moment avec les travaux sur la rue Jean Moulin. D'ailleurs, je vois souvent monsieur l'adjoint qui dit de reboucher les trous, parce qu'avant de faire des trous derrière chez moi, il faudrait peut-être reboucher ce qu'est la rue Jean Moulin. Ce serait bien pour les riverains quand même, parce qu'on est en train d'esquinter les voitures. On a même de la poussière dans les draps. C'est vachement verbe, vachement verbe. Et je vous dis que on risque d'avoir des problèmes avec l'eau de ruissellement parce que n'a pas été pris en considération le début des travaux qui seront faits au niveau des terrains qui seront vendus, puisque les parcelles commencent à l'aplomb des murs que nous avons, des murs de parcelles que nous avons sur ces terrains-là. Je vous parle de la rue Jean Cocteau notamment. Voilà.
Monsieur Frappoli, je crains que vous ne confondiez ce qui est conjoncturel et ce qui est pérenne. C'est-à-dire, ce qui est conjoncturel, c'est qu'on ne refait pas une grande avenue, une grande voirie, sans des désagréments qui durent pendant un certain temps. Ce que j'ai répondu à M. Bourguet, c'est de manière définitive, l'implantation et l'extension de la ville doit se faire pour l'agrément et pas pour le désagrément des populations existantes. Je sais aussi que vous avez demandé à notre directrice Laure Aménagement la possibilité d'avoir une bande de 3 mètres. Je le sais. Ça n'a pas été possible. On est dans un continuum. Imaginez que que vous soyez dans un lotissement où vous avez des voisins et rassurez-vous pour l'écoulement des eaux. L'opération telle qu'elle est conçue avec tous les travaux qui y sont faits, M. Craver-Riveil, je peux vous dire que le dispositif hydraulique est un dispositif qui va améliorer la situation existante, notamment au milieu de l'avenue, qu'en tant que voisin, vous ayez des craintes. Je le partage. Que vous soyez vigilant, je l'approuve. Que vous soyez toujours dans l'attente de meilleures solutions par rapport à la poussière, soit, bien entendu, si j'étais à votre place, j'aurais cette préoccupation. Mais contester un conseil le fait qu'il y ait de la poussière pendant qu'on fait des travaux ne me paraît pas un argument tellement recevable. Voilà. Écoutez, après, chacun met le curseur.
Chacun voit midi à sa porte, monsieur Bourret.
Oui, oui. Nous voilà de bon droit. Monsieur Pradel.
Pour résumer la question que vous nous posez, l'aglo nous donne un terrain et nous en prête un autre.
C'est ça.
Pourquoi ils nous le prêtent? Pourquoi ils nous le donnent pas?
Parce qu'ils veulent le garder au cas où ils auraient besoin.
Alors,
c'est grève, si à Mouillot on leur dit c'est mieux qu'on le récupère, pourquoi ils...
Il est dans le périmètre de protection des captages, donc on ne peut pas en disposer comme ça. Et eux, l'agglomération dit, moi si j'ai besoin, pour une raison ou pour une autre, de faire une extension de surpresseur ou autre chose, ces terrains, je les reprendrai. C'est pour ça qu'ils ont demandé une réversibilité. On
a obtenu que la réversibilité n'intervienne pas avant 10 ans, mais il y a possibilité, ça ne veut pas dire qu'ils seront reversés.
Alors, M. Prodeil, vous avez entièrement raison de relever ce que je trouve, ce que j'ai personnellement jugé comme un paradoxe. Le paradoxe, c'est, on ne sait pas si on en aura vraiment besoin, mais en cas de quelque chose, on va quand même s'abriter. Je rappelle un petit peu, je refais la genèse de cette affaire. Il y a quelques années, nous avions un surpresseur, Camus Prévert, juste que nous avons supprimé, parce que les services de l'agglomération, peut-être que le président n'était pas le même, je ne sais pas, je ne pense pas que ça ait pu influer, un surpresseur que nous avons supprimé, parce qu'on nous a dit qu'à Jean Moulin, on avait largement de quoi faire face, et où nous avons pu convertir, fermer ce surpresseur qui était désaffecté depuis des années, et nous avons aménagé un parking. Donc la réserve en termes d'eau et de traitement des eaux était largement pourvue. Nous avons ensuite travaillé sur le plan local le PLH, le plan local de l'habitat, lequel qualifie les besoins en eau pour les ménages, et comme chacun sait, cette zone est la dernière zone qui sera urbanisée. Dans le même temps, la prospection avec les différents puits, la zone 13 carrières, par exemple, le besoin de moderniser nos stations de traitement des eaux, comme à Vauguière, où il est question de plusieurs millions d'euros pour arriver à les rendre plus performantes, pour avoir plus de réserves, pour avoir plus de pression, n'ont jamais mis en exergue, à quelque moment que ce soit, l'éventualité d'un besoin en eau et d'une extension potentielle de ce surpresseur qui est la propriété de l'intercommunalité, bien qu'étant sur la commune de Montguéau. Donc, dans un premier temps, il a été dit qu'en principe, on n'avait pas besoin, mais en cas de quelque chose, l'agglomération voulait quand même préserver la potentialité d'une exploitation future au cas où il faudrait s'étaler. On sait dans nos prévisions, c'est pour ça que je trouve que c'est paradoxal, on sait que dans ces prévisions, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas un besoin en eau avéré parce que le recensement des opérations sur la pointe de Mulhouse, où on peut avoir une activité un peu commerciale, mais en tout cas pas d'habitat au sens habitat comme la Fond de Montguéau, on connaît déjà nos besoins. Donc c'est une ce qu'on pourrait appeler la conciliation de deux intérêts généraux. Un, avoir de l'habitat pour la Fond de Montguéau. Deux, les autres, en cas de quelque chose, avoir une porte de sortie. 10 ans, pourquoi ? 10 ans, c'est le temps de l'opération. Si les études hydrologiques prospectives faisaient apparaître la nécessité de conforter, d'agrandir la fourniture en eau via ce surpresseur, nous aurons dans l'aménagement futur des possibilités de rétablir éventuellement des parkings qui sont des parkings publics, et qui sont certes mesurés par rapport à ce qu'ils étaient aujourd'hui, avec un village où l'espace public était beaucoup plus généreux qu'il ne le sera demain, puisque la vocation de cette zone d'habitat ne fera pas la part belle aux véhicules, même si, bien entendu, à un moment ou à un autre, il faudrait bien les mettre quelque part. Et nous saurons, à ce moment-là, nous adapter. Donc, paradoxal, parce que, en fait, s'il y avait un risque, moi, je n'aurais jamais signé l'autorisation provisoire, ni pour 5 ans, ni pour 10 ans. Voilà, c'est tout.
Et la Côte Montpellier, vous, hein ? La Corbeau, hein, pour l'instant.
Oui. Oui. Oui, parce que je veux faire du logement social. Je veux là-dessus qu'il y ait des gens qui viennent. On a répondu d'ailleurs, c'est en partie sur votre demande, hein, surprenant, qu'on a travaillé là-dessus. Voilà, écoutez, les échanges ont eu lieu, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 10, Bruno Bernard.
Alors, monsieur le maire vous expose que nous avons reçu une proposition d'achat de Madame Oran, qui demeure à Issenlas, concernant les parcelles qui ont été léguées à la commune par Madame Pélissier et qui sont sur cette commune d'Issenlas. Cette dame a proposé un montant de 4200 euros pour l'achat de ces parcelles qui vous sont détaillées. Si vous voulez que je les lise, mais elles sont détaillées.
Et donc cette demande est justifiée par la personne par un projet d'installation agricole qui est en cours de montage auprès de la Chambre d'agriculture. Donc voilà, nous vous demandons d'approuver la cession de ces parcelles à cette dame.
Bien, c'est réponse de l'ordre des choses. On vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Toujours toi, Bernard.
Alors, là, il s'agit de la taxe des portes de l'aéroport pour le programme des équipements publics. Par délibération du 19 décembre 2017, le Conseil communautaire de l'agglomération a approuvé le dossier de création modificative de la ZAC, les portes de l'aéroport, ayant vocation à accueillir des locaux d'activité et des locaux tertiaires, et ayant fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 4 février au 8 mars 2019 et qui s'est conclue par l'avis favorable du commissaire enquêteur le 26 mars 2019. La réalisation de cette ZAC nécessite la réalisation d'équipements publics dont une partie incombe à la commune. Conformément à l'article R311-7 du Code d'urbanisme, l'agglomération sollicite l'accord de la commune sur ce programme d'équipement public. Ce programme d'équipement public, vous l'avez dans un tableau qui suit cette délibération. Vous voyez que dans ce programme, il y a trois objets qui sont de la compétence de la commune, pardon, je vais y arriver. La télécommunication et les fibres optiques. Ensuite, le raccordement du fossé le long de l'impasse de la source exutoire fossé de collecte BD extrême. Et puis le bassin de rétention numéro 2, partiellement hors ZAC. Et puis ensuite, raccordement télécommunication de certains lots donnant sur la rue du Nègre 4 et élargissement et remise en état de la rue du Nègre 4 mise en place des réseaux. Je précise quand même que ces équipements sont financés par la ZAC, la ZAC des portes de l'aéroport. Donc il est simplement demandé si vous êtes d'accord sur ce programme d'équipement public.
Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est toi, Bernard.
Oui.
Ça va venir souple ce soir.
Donc, le point numéro 12, il s'agit d'une convention d'occupation du domaine public relative à l'implantation d'une station de relais téléphonique. La société Bouygues Télécom a sollicité l'établissement d'une convention d'occupation du domaine public pour l'implantation d'une antenne relais sur le site du parking Bassager à Carnon. Cette antenne d'une hauteur de 18 mètres accueillera d'autres opérateurs que Bouygues, car nous avons exigé que cette antenne soit mutualisée entre les différents opérateurs. Elle abritera aussi les équipements techniques de la commune en matière de radio et de vidéoprotection. Cette convention est consentie pour une durée de 12 ans à Bouygues Télécom, moyennant une redevance annuelle de 15 000 euros, plus 5 000 euros pour chaque opérateur supplémentaire. Nous vous demandons de bien vouloir approuver cette convention.
Oui. Monsieur Pouvy.
Moi, ce qui me dérange, c'est que selon le plan que vous nous avez fourni, le schéma, on n'a pas vraiment de vision de l'impact paysager de ce pylône. Moi, je trouve que déjà à Carnon, on a des difficultés pour l'aménagement de nos entrées de ville. Implanter ce pylône en plein cœur de Carnon-Ouest, ça me paraît... j'aurais aimé qu'on fasse d'abord... qu'on ait d'abord des projets d'architecture pour voir un peu si on pouvait trouver, avoir de l'imagination, trouver quelque chose d'un peu esthétique, qui gêne le moins possible. Là, tel que c'est présenté, ça me paraît vraiment, vraiment un peu aberrant. Hein. Ensuite, je voudrais qu'il y ait des garanties pour les personnes électrosensibles, et c'est-à-dire qu'il y ait toujours une garantie d'au moins 40 mètres des antennes des premières habitations. Voilà, j'ai ces deux exigences, mais pour le moment, je voterai contre parce qu'on n'a pas de vision paysagère de cette implantation.
En ce qui concerne la vision paysagère, effectivement, on aurait pu peut-être la joindre. En ce qui concerne la sécurité des personnes, je vous rappelle que nous exigeons chaque fois qu'une antenne s'installe un contrôle avant. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas,
puisque l'antenne n'existe pas, et un contrôle après l'installation, et qu'elle soit conforme aux normes européennes et françaises en matière de radio, les ondes radio-téléphoniques.
Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les personnes électrosensibles demandent qu'il y ait au moins 40 mètres.
Absolument.
Voilà. Et là, tel le schéma que vous avez fourni, bon, les premières antennes, on peut estimer qu'elles sont... Ça peut peut-être aller, mais dès qu'il y en aura qui seront en dessous, elles vont être bien plus proches des premiers appartements.
Alors moi, je vous garantis, on le fait partout, on le fait dans toutes les antennes à qui on autorise l'implantation. On fait des contrôles systématiques par une entreprise qui n'est pas payée par les opérateurs, hein, une entreprise totalement indépendante, un bureau totalement indépendant. Avant et après, mais là, avant, il n'y en a pas, puisqu'il n'y avait pas d'antenne. Voilà.
Non, mais avant, on peut mesurer par rapport au permis, quand même. Oui.
Bon, vous attirez notre vigilance, elle est de mise. Voilà, là, ce qu'on peut vous répondre. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, de la téléphonie, tu passes à l'eau, Bernard?
Je passe à l'eau. Je me jette à l'eau. Donc là, il s'agit du raccordement et d'une extension du réseau d'eau brute par BRL. En effet, la société BRL a reçu une demande de raccordement de la part de la résidence Palma Grande qui nécessite une servitude de passage de la canalisation sur la parcelle communale BS221. Il est donc proposé d'accorder cette servitude moyennant une indemnité fixée à l'euro symbolique puisqu'il s'agit effectivement de rendre service à des habitants de Mobio qui habitent au Palma Grande. Pardon.
C'est pas la sorte, c'est les travaux. Pour les bâtiments sont déjà construits, il leur faut encore de l'eau.
C'est... Oui, mais c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau potable, hein. C'est pour arroser, c'est pour faire de l'arrosage et tout.
Ah, d'accord.
C'est pour économiser l'eau potable. Et ils veulent être raccordés à BRL pour arroser les espaces verts, enfin, bref, tout ça. Donc ils demandent une servitude de passage. Voilà.
Je fais voter. Contre, abstention, merci. Jacques, tu nous parles de la convention pour la réalisation de missions relatives à la gestion et à l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire de l'avenue Gaston-Bessel.
Oui, cette avenue a été rétrocédée à l'AGLO en 2006. Bon, la convention a pour objet de définir les obligations de la commune, à savoir l'entretien des espaces verts, assurer le balayage de la voirie et l'entretien des carrages publics. Les montants sont inscrits dans le rapport. En contrepartie, l'AGLO s'engage à rembourser à la commune. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette convention avec l'AGLO du Pays de l'Or.
J'ai juste une petite question, c'est une volonté de la commune ou...
Mais c'est une régularisation, puisque bon, cette avenue fait partie compétence des zones de la commune du Pays de l'Or. Nous, c'est la seule avenue que nous avons, parce qu'en règle générale, c'est toute une zone d'activité. Et cette voirie est imbriquée, disons, dans le
périmètre. Dans l'espace communal.
Dans le communal, c'est-à-dire qu'on passe avec la vallière, le réseau d'éclairage public est raccordé sur notre amont d'éclairage public, et là, les espaces verts, c'est les quatre arbres qu'il y a. Voilà.
Dit autrement, on préfère s'en occuper, parce que ça fait partie du centre urbain, avec une compensation financière, comme si c'était un loup qui le faisait. Ça nous remet. On passe au vote. Contre, abstention, tout le monde est d'accord. Comment ça, ça marche? Jean, M. Albert, nous parle d'une convention d'occupation temporaire avec l'association Raquette Malgorienne.
La commune propose de mettre à disposition de l'association Les Raquettes Malgoriennes une zone de 1200 m² située à la plaine des Sports pour une période de 10 ans. Pour la réalisation de 4 terrains de padel. En vérité, cette zone-là. Il n'y aura que deux nouveaux terrains, hein. Il y aura deux nouveaux terrains construits, puis on va dépasser deux terrains qui sont actuellement à la plomb des appartements, qui font du bruit, donc ce sera deux nouveaux, plus deux qu'on dépasse là-dessus. La commune réalisera l'ensemble des travaux de voirie et réseau d'hiver. La Raquette Malgorienne prendra en charge la pose de la structure de deux nouveaux terrains, de tennis et paddle, et assurera le dépassement et la pose de deux terrains existants. L'ensemble des frais d'exploitation est à la charge de l'association pendant la deuxième mise à disposition. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise à disposition au profit de la SOS Raquette Malgorienne de l'emprise nécessaire à la construction et à la gestion de 4 terrains de paddle, soit une superficie de 1200 m² sur une parcelle cadastrée, section DP 10
d'une superficie de 9275 mètres pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2019.
Oui, en fait, on fait qu'on double. On leur permet de s'agrandir et en même temps, on réduit les nuisances induites par la pratique auprès des maisons. Ne se doutez pas, en fait, Même en irrégulier, c'est compliqué. Ouais. Quand vous entendez pim, pim, pim.
Ok, c'est ça, c'est pour les bombes.
Allez, on se vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci pour les panélistes. Sophie, Mme Crampa, il va nous parler du mégobus.
Oui, je vais vous parler du mégobus que j'étais déjà évoqué précédemment. La commune a œuvré en étroite collaboration avec les associations de parents d'élèves pour la mise en place d'un pédibus. Vous le savez probablement, il s'agit d'un système d'accompagnement des élèves à pied jusqu'à l'école qui vise à promouvoir le déplacement en piéton comme mode d'accès à cette dernière, permettant de satisfaire des objectifs liés à la santé, à la convivialité et au respect de l'environnement. Une première ligne expérimentale composée de 3 arrêts a été déployée pour l'école Mario-Roustan depuis le 1er avril 2019. Ce dispositif est appelé Melgobus. Le dispositif a fait l'objet d'un premier échange avec nos partenaires pour savoir comment vivait cette ligne et on est ravis de voir que ça se passe extrêmement bien et que nous avons des perspectives de déployer à la fois sur ce groupe scolaire mais sur d'autres groupes scolaires ce mode de déplacement pour aller à l'école. La municipalité souhaite apporter un soutien financier à l'association du même nom afin de l'aider à supporter les frais administratifs liés à sa création. Monsieur le maire propose une aide à la création de l'association en versant une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 euros. Je précise que ces frais leur permettront en fait de créer l'association. Le dispositif est entièrement gratuit et repose sur du bénévolat. À la fois, les parents sont invités donc à deux jeux pour être accompagnateurs, mais aussi les grands-parents, les oncles, tantes, nounous et toute personne de bonne volonté pour pouvoir aller et développer ce mode de déplacement qui est, je crois, une chose très importante pour la commune et pour l'ensemble des élèves du territoire.
Très bien. Alors, je vous propose de voter cette subvention à 300 euros, association Melgobus. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie d'avoir dépensé de Melgorien à Melgobus avec 300 euros. On aura appelé Cyril par bus. Alors, point suivant. C'est Jean, monsieur Albert, qui va nous parler de l'amitié et l'échange de Modio Lorca.
L'association Amitié et Échange Modio Lorca souhaite réimprimer 300 nouveaux exemplaires du catalogue de l'exposition Guerre civile et la référendum. La ville de Modio Cardon souhaite verser une subvention exceptionnelle de 500 euros pour contribuer aux frais de la réédition. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention au profit de la SOS Amitié et Échange Modio Lorca.
Merci Jean. Effectivement, cette exposition et ce travail, nous les saluons à nouveau. Qu'a fait M. Villa et son équipe, et qui, lors de la dernière tenue, a connu un succès extra-communal, je dirais. Beaucoup de personnes sont venues d'ailleurs, et c'est bien. Ils sont revenus écouter ce témoignage que l'apparition d'un nouvel ouvrage va conforter, enfin, la réédition de l'ouvrage, en sachant que l'association autofinance une partie, enfin, pas tout, mais une partie. Ils n'ont pas demandé, je pense que c'est une subvention en mémoire de ce triste épisode de l'histoire franco-espagnole, mérite tout notre soutien. Donc, passe au vote si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On revient dans le contexte scolaire.
Alors, je vais vous parler des intervenants extérieurs. Comme vous savez, la commune soutient les équipes enseignantes pour mener à bien leur projet d'école. Dans ce cadre, elle participe aux charges liées à la venue d'intervenants extérieurs œuvrant durant le temps scolaire sur la responsabilité pédagogique des enseignants. Par délibération date du 17 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention entre l'association Arte Cabloca et la ville de Medio Carmen afin de financer l'animation d'une activité scolaire au sein des établissements publics d'enseignement maternel et élémentaire. Suite à la rupture de la convention signée avec Mme Guérin, intervenante à l'école maternelle Louis-Cédarbeau, il a été décidé de confier 5 heures d'intervention complémentaire à cette association pour un montant qui s'élève à 300 euros, n'engendrant aucune dépense supplémentaire pour la commune. Monsieur le maire propose de signer l'avenant numéro 1 à la convention avec l'association Art et Cabloca, qui travaille sur l'initiation et la découverte musique et danse. Les crédits sont inscrits au budget de la commune.
Très bien. Sans commentaire, on passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Point 18. Sophie.
Je vais vous parler d'une convention pour la location et l'entretien de ruches au parc paysager. Dans le cadre de la valorisation et du développement de la nature sur la commune, celle-ci souhaite poursuivre son action favorisant un développement de la biodiversité sur son territoire. Il est proposé d'installer des ruches au parc paysager qui seront gérées et entretenues par M. Christophe Borbalan, apiculteur à Agde. La convention prévue pour une durée de 36 mois pour objet de définir les obligations de ce monsieur concernant la mise à disposition d'un terrain, la fourniture et l'entretien de 5 ruches qui seront installées à l'extrémité sud-est du parc paysager et de préciser les montants financiers que la commune reversera annuellement à cet apiculteur. Vous avez le détail de la mise à disposition et des engagements pris. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la convention pour la location et l'entretien de 5 ruches au parc paysager et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette convention avec M. Borbalan, apiculteur. Je précise que lorsque nous avons travaillé avec ce monsieur, notre objectif était de pouvoir mettre en place un travail avec les écoles sur la sensibilisation et que dans le cadre de la convention, les interventions proposées seront travaillées dans cette optique pour pouvoir à la fois leur présenter l'apiculture et ce monsieur a une ruche pédagogique donc qui peut amener dans les écoles sur site et puis pouvoir les amener au plus près des ruches en activité.
Très bien, donc on est dans une renaturation, c'est bien. On fait un travail en tout cas avec les habitants de la ville avant de ruches. C'est très bien. Je vous passe, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. La tarification, nouvelle tarification de la. La salle Morassel, monsieur Albert.
Non, parce que d'abord c'est le
gymnase de Bagnon. Oui, avant d'aller manger, on va passer d'abord à la palestre. Comme les...
Le club de Mouvement Pays de l'Or Basket a été sollicité par la société Frenchy Associates, spécialisée dans l'organisation du camp sportif en anglais, pour organiser du 1er au 5 juillet un stage de basket au sein du gymnase de Bagnon. Aussi, s'agissant d'une mise à disposition des équipements auprès d'un organisme privé, il est proposé d'ajouter une redevance aux tarifs communaux 2019 en vigueur. La somme de 500 euros sera demandée pour location du gymnase de Bagnon pour une durée de 5 jours consécutifs. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver qu'il convient de créer un tarif adapté pour location du gymnase de Bagnon pour une durée de 5 jours.
Oui, en effet, on n'avait pas prévu de louer le gymnase.
Si un jour, c'est prévu, pas 5.
Ah, d'accord. Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Maintenant, on va passer à la cuisine.
Ouais. Une cuisine équipée attenante de la salle Morassel est désormais opérationnelle et peut être mise à disposition du public. Avec l'installation de ce nouveau mobilier, la tarification a été revue afin de permettre au public de pouvoir disposer de la salle avec ou sans cuisine en fonction de leurs événements. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver une nouvelle tarification de la salle Morassel avec ou sans cuisine. Donc, c'est marqué, vous avez la tarification derrière.
Oui, avec des tarifications pour les associations de la commune et différentes de celles de l'extérieur. Vous avez pris connaissance, on passe au vote. Qui est contre ?
Je précise que maintenant, elles seront mises à disposition des particuliers aussi, hein, donc pour faire des mariages. Hein, pour, voilà. Voilà. Ceux qui veulent se marier, c'est le moment de le faire.
Elle sera inaugurée quand la cuisine,
ah, bon, attends,
la cuisine.
À partir de maintenant, dès qu'on a fait les tarifs là,
la cuisine elle est finie.
Oui, elle est finie, oui. Il fallait voter les tarifs pour voir la.
C'est surtout que ça permet de mettre en conformité un usage parfois borderline de certains traiteurs qui faisaient les cuistots dans un espace qui n'est pas dédié à ça. On exigeait qu'ils le fassent dehors, mais on n'était pas sûr que c'est toujours respecté. Là, maintenant, c'est aux normes. On est aux normes. Bon, je vous expliquerai plus tard. On passe au vote. Qui est contre? Abstention. Merci. Très bien. Je vous garde comme animateur, M. Prenet. Adoption d'un nouveau tarif pour la salle Rosa Parks. M. Albert, comme il est dans les mots anglais.
Ouais. Et, ouais. La salle Rosa Parks à Carnon est équipée d'un grille technique avec des projecteurs LED. Aussi, lorsque la salle de la commune organise des spectacles nécessitant des besoins en éclairage spécifique, il sera possible de la mettre à disposition une console lumière à certaines conditions. Une demande écrite sera écrite et argumentée. Un chèque de 1000 euros de caution devrait être remis au preneur, par le preneur au service administratif. Le chèque sera restitué à la station de la récupération du matériel. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les conditions de mise à disposition de ce matériel.
Très bien.
C'est un grill.
On passe au vote. Qui est contre? Abstention. Je vous remercie. On est toujours dans des délibérations vénales. Le tarif des places de la Romerie pour Patricia.
Alors, il s'agit ici d'un point sur une modification des tarifs communaux concernant le spectacle équestre de la Romeria 2019. Dans le cadre de l'anniversaire des 30 ans de la Romeria, lors de l'édition 2018, la ville s'est engagée sur une volonté forte de marquer cet anniversaire, donc naturellement. Et pour ce faire, nous avons offert en ouverture de la manifestation un spectacle équestre différent des autres années, puisqu'il mettait en scène de nombreux artistes de dimension internationale. Suite à l'engouement du public pour ce nouveau type de spectacle, la ville fait le choix de porter à nouveau cette dimension équestre d'un nouveau genre pour l'édition 2019. Notre offre culturelle se voulant accessible au plus grand nombre, nous proposons donc une participation de 6 euros en tant qu'adulte et de 3 euros pour les moins de 6 ans. Il vous est donc proposé d'adopter la modification des tarifs communaux 2019 et d'autoriser la création d'un tarif plein de 6 euros et d'un tarif réduit de 3 euros pour les enfants de moins de 6 ans.
Merci. Oui, les horaires étaient pleines l'an dernier et par le passé. Ce spectacle, oui, rappelle le spectacle de Cavadélis il y a quelques années qu'organisaient des entreprises privées. Bon, là, c'est nous qui serons les organisateurs. Je pense que c'est un prix très raisonnable pour la prestation que nous avions eue l'année dernière. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Patty, tu continues toujours?
Oui, alors toujours sur la Romeria, puisqu'il s'agit là de la convention de partenariat dans le cadre de la 31e édition. Alors cette année, plusieurs partenaires nous accompagneront. La SOR, le concours de Paella, le Camargue Tradition et Tendance Flamenca pour la scène ouverte aux associations, Flamenco Passion pour l'organisation du concours de Céliane, et puis Intermarché pour l'ensemble de la manifestation. Ainsi que la MJC de Mourioux-Cardon qui se positionnera sur l'espace Ninos et qui prendra en charge le samedi à midi tous les petits Ninos qui voudront bien participer à ces animations. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions précitées avec ses différents partenaires.
Merci. Donc ça contribuera à cette fête. Qui est contre? On passe au vote. Contre? Abstention? Merci. Laurent, tu nous parles de la billetterie pour la corrida?
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'organisation donc, de la corrida qui se déroulera lors de la 31e Romerie le 23 juin prochain, une convention avec la Peña Roman Pérez et la ville est nécessaire pour permettre la vente des billets aux arènes. Mais afin de faciliter l'accès des administrés à cette billetterie et proposer de faire cette vente physique des billets au service de culture, tradition et patrimoine à l'espace Morassel, ainsi que la vente en ligne via le site internet de la ville, les recettes seront reversées aux prestataires, minorées bien sûr des frais bancaires. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat précitée.
C'est exactement pareil. Oui, je voudrais dire quelque chose. Parce que l'an dernier, j'avais déjà fait la demande. Vous avez remis dans la convention entrée gratuite pour le moins de 12 ans. J'avais demandé l'an dernier qu'on supprime cette...
cette notation. Je pense que ça devrait être plutôt interdit au moins de 12 ans que gratuit. Voilà, donc c'est une. L'année passée, on en avait passé, on m'avait dit, Madame Moulin, que vous y feriez attention.
Oui, on avait voté les mêmes vitesses.
Ensuite, je voulais savoir, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la convention avec l'association qui organise la corrida. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était la convention, combien on donne, nous, d'argent.
C'est pareil que chaque année, hein, ça n'a pas bougé, puisque c'était un marché qui a été adopté, reconduit sur 3 ans.
Ah, c'est le marché sur 3 ans.
Oui, donc c'est exactement pareil, il n'y a rien qui a changé. On poursuit le partenariat sur les 3 ans. Le partenariat pouvait être cassé si ça ne correspondait pas aux intérêts de la ville, mais sinon il est en tacite reconduction sur 3 ans.
Oh, hein? 30, oui.
Oui, c'est ça.
30 000 euros. De toute façon, toutes les sommes afférentes à ce qui est organisation des spectacles publics ou de la gare de la Romérie, sont consultables. Il n'y a pas de.
Oui, non, mais c'est parce que comme on ne l'avait pas, voilà, je ne me rappelais pas que c'était une convention de 3 ans.
C'est marché public, monsieur.
D'accord.
Allez, on passe au vote avec les modifications prévues. Contre, abstention. Je vous remercie. On revient dans quelque chose de plus doux ou de plus tendre.
Ça dépend.
Ah non,
ça dépend.
C'est moins violent.
Ça peut être violent.
Laura,
suivant le bureau qui est en face. Donc, effectivement, nous avions délibéré le 18 mars dernier au sujet du partenariat entre l'UTM et la ville concernant les dispositions financières relatives à l'organisation de la course aux As, comptant pour le trophée 3e qui a eu lieu le 31 mars dernier. Il convient donc, après subvention de Montpellier Méditerranée Métropole, que l'UTM reverse, comme convenu, la somme de 5 300 euros à la ville. Et donc proposer aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à l'article 5 de la convention de la délibération 43, votée en conseil municipal du 8 mars 2019, d'autoriser la ville de Mauvieux-Carnon à percevoir la somme de 5 300 euros par l'Union Taurine Melbourienne.
Merci Laurent. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Alors, on rentre dans un autre art, celui des médiathèques. Et celui de Melgorier qui nous a embarqué au parc paysager.
Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal la démarche de création d'une œuvre artistique pour la mise en valeur de la barque de Gaston Bessette au parc paysager de Mauguio. Lorsque la famille Fauchère fait don à la ville de la barque de Gaston Bessette, écrivain, poète et auteur du roman L'étang de l'or, la commune prend le parti de mettre à l'honneur ce patrimoine et décide de son installation au parc paysager. La commune a fait appel à un artiste melbourien, Stéphane Péridier, pour la création d'une œuvre originale en acier qui, sous la forme d'un carnet d'écriture, habille et protège la barque de Gaston Bessette. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer une convention de commande d'œuvre d'artiste avec l'artiste Stéphane Péridier pour un coût de 5 000 euros.
Voilà, vous avez pu voir combien elle est symbolique dans sa forme, dans son expression. Passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Laurent Tricoire va nous parler de mise à jour du tableau des effectifs de la commune. Laurent.
Alors, le tableau des effectifs de la commune, c'est régulièrement qu'on y revient dessus. Là, il n'y a de secret pour personne. Nous créons 6 postes de policiers pour assurer les 24 heures sur 24, notamment la nuit, qui n'était pas assurée par la police. Donc, ce tableau met à jour ces 6 postes. Ainsi que l'arrivée du nouveau DGST, qui est lui ingénieur territorial en chef, donc un poste en chef, c'est un titre qu'il a. Donc rien de particulier, si ce n'est la modification. connaître l'arrivée de ces gens-là.
On ne connaît pas les six policiers encore, en tout cas physiquement. Monsieur Onougui est présent, directeur de service technique, ce soir. Ouais. Il nous a rejoint depuis le 11 mars. C'est ça.
Voilà. Je voudrais faire une petite aparté par rapport à ça. Parce que le but, c'est de faire les rondes de police de la nuit. Et ce problème de l'extension de l'éclairage qui fait beaucoup parler dans les chaumières, je voulais savoir, vous deviez faire une sorte de bilan avec la police, la gendarmerie, savoir s'il y a plus de problèmes dans les rues qui sont éteintes, etc. Je veux savoir où on en était avec ce bilan.
On va adopter d'abord le point, puis on parlera du bilan, si vous voulez, d'accord, qui n'est pas le sujet du jour.
D'accord.
Voilà, donc, pour la mise à jour de nos effectifs, donc je vous demande de m'autoriser à modifier les effectifs de la commune, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Oui. Là-dessus, allez-y. Non, là,
Alors, j'ai une question sur au niveau des recrutements et sur les objectifs de parité, et notamment sur la police. C'est un point qui me semble important.
Là, c'est vrai que dans le casting, c'est une question de compétence, une question d'équilibre entre homme et femme, en sachant quand même que c'est un profil particulier et que ce sont des personnes qui ne travaillent que la nuit. C'est-à-dire qu'il y a parfois une vocation plus facile à porter chez certains que chez certaines. Mais je ne suis pas là pour dire que certaines n'ont pas le profil et que d'autres. Alors, c'est vrai que...
Non. Je peux donner peut-être quelques exemples. Sur une centaine de candidatures que nous avons reçues, un personnel féminin s'est présenté. Donc c'est pour vous dire le décalage qu'il y a entre les niteux et le reste. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est comme ça. Il est arrivé une candidature sur l'ensemble de toutes les candidatures. C'est un profil particulier, les gens qui font la nuit.
Vous avez soulevé un gros mot. Vous allez prendre des profils spécifiques qui seront des spécialistes des tournées nocturnes où il y aura une organisation
Pour l'instant, on recrute 6 personnes qui feront essentiellement que les nuits.
Oui, parce qu'il est difficile aujourd'hui de dire à un policier municipal, bon, toi, tu ne vas travailler que la nuit. C'est sans puni. Si c'est un choix dans l'embauche de dire votre profil de poste, c'est de travailler la nuit, peut-être vous ne travaillerez pas que la nuit étant vécue comme un moment moins facile que le jour. Hein? Excusez-moi, il y a des femmes qui réussissent la nuit. Hein?
Oui.
Vous allez vous faire. Ben, comment c'est mon chien? Ça peut arriver.
Monsieur, vous avez étudié la possibilité de 3-8 parce que je sais que dans certaines communes, notamment au niveau de la police municipale, ils fonctionnent en 3-8. Et ça règle pas mal de problèmes finalement parce que dans un cadre de roulement comme ça, il n'y a pas un système de volontariat, il y a un système d'acceptation d'un service particulier. Donc il faut peut-être voir avec des syndicats pour les emplois au niveau de ce système de fonctionnement. Je vous en parle parce que c'est un délégué syndical de Montpellier qui m'en a parlé, de la police municipale bien entendu.
Pour l'instant, le 3-8 n'est pas à l'ordre du jour, parce que nous, nos syndicats ne sont pas favorables au 3-8, mais on a déjà travaillé à deux reprises et changé à deux reprises les temps de travail à la police municipale de Montguyon.
Comme quoi, c'est peut-être...
Cela dit, on a un contre-exemple. On a une collaboratrice qui restait que quelques mois chez nous et qui serait bien restée si elle avait su qu'on fasse la nuit, parce qu'elle trouvait que elle avait un tempérament offensif, elle était d'ailleurs championne de karaté et ainsi de suite, elle aimait bien être dans les interventions plutôt que dans la gestion administrative, j'allais dire bureaucratique, administrative du côté police. Enfin, après, il n'y a pas de profil vraiment, c'est pour ça qu'on ne discrimine pas, mais on n'a pas non plus imposé le recrutement, déjà que c'est assez compliqué de trouver, puisque les différentes communes recrutent plus ou moins. Et nous aimerions avoir plutôt des gens motivés qui vont bien, plutôt que numériquement le nombre, mais qualitativement des gens dont on ne serait pas satisfait. Donc on essaie de mettre toutes les choses en contexte.
Actuellement, quelqu'un qui réussit le concours est embauché dans les 3 mois. Il faut savoir que la demande des collectivités est plus importante que les gens qui se présentent au concours. Donc c'est pour vous dire si toutes les communes embauchent même celles qui n'avaient pas de police municipale.
C'est pas des guerres vitales.
Après, bon, par rapport à la question de M. Bourguet, nous avons donc demandé à la police, à la gendarmerie, de nous faire un état de ce qui se passe la nuit. Eh bien, à Moguio, nous avons une baisse légère, mais une baisse de la délinquance. Donc, en aucun cas, on ne va pas dire que c'est grâce à l'extension de l'éclairage qu'on a une baisse de la délinquance. Elle est stable, elle est ce qu'elle est. J'aimerais qu'elle n'ait pas du tout. Et à Carnot, l'analyse qui est faite par rapport aux jeunes qui ont été arrêtés et par rapport à ce que nous dit le major Grandepoix, il n'y a pas de causalité entre ce qui a pu se passer avec l'arrestation des 3 jeunes, dont un est encore reparti. Un, il a été auteur de 24 ou 25 faits en 3 mois. Il avait été attrapé par notre police, il a été relâché, et la semaine dernière, dans le centre où il était hébergé, il a volé le téléphone de son surveillant, et il s'est à nouveau échappé. Et entre-temps, il avait volé la voiture de son grand-père, à Carnot, 13 ans.
Un Carnonné.
Donc, si vous voulez, l'analyse qui a été faite, et au regard de ce qui se passe dans les communes voisines, ne permet pas de définir un lien de cause à effet. Donc, nous avons... On continue l'expérience, c'est-à-dire que nous essayons, dans le même temps, vous voyez, j'ai reçu ce matin un témoignage d'un monsieur qui me dit, tiens, on revoit des messages, on revoit des choses, il y a quand même une réhabilitation de la faune nocturne. Alors, on ne va pas comparer ce qui ne se compare pas, comme on faisait des additions, on n'ajoute pas des messages avec des gravés des cambrioleurs. Néanmoins, je pense que c'est un travail de longue haleine que nous essayons de tenir. On essaie de se donner les moyens humains pour justement agir dans le sens d'une préservation de l'écosystème. Voilà, donc nous poursuivons cette affaire. Je pense que ça ne va pas vous déplaire, M. Prédel.
Si vous voulez, par rapport à ça, si vous nous donnez des chiffres bruts en disant la délinquance a baissé dans la période... c'est juste un témoignage, mais moi j'ai pris le temps de vérifier, le sentiment d'insécurité a augmenté.
Le sentiment
d'insécurité. Non, mais moi, si vous voulez, moi je suis très expérimenté, je me souviens de la clacasse qu'on a pris le gouvernement Jospin en 2002 sur les questions de sentiment d'insécurité. Il y a de quoi se retrouver le cul par terre. Hein. Donc, sur ces questions-là, il faut être... Moi, j'ai senti un énervement précisément sur les boulevards, si vous voulez. On connaît les mêmes mémoriens, hein, et qui sont pas à l'aise, qui sont inquiets. Donc là, il y a quelque chose à faire. Moi, je suis très tranquille. J'ai voté avec vous en disant on expérimente. Aujourd'hui, que ce soit à Carnon, où on a quand même une vague de manque... Enfin, on a une vague de délinquance... et à Moguio où il y a des petites délinquances, bon, j'ai des retours sur les voitures rayées, sur des vols pas loin, hein, des vols de vélo sur des balcons. Les gens ils étaient au premier étage, ils croyaient qu'on ne pouvait pas leur voler un vélo au premier étage. Et ça vient d'arriver. Donc il y a toute une série là de bouche à oreille qui fait que d'autres communes ont d'autres approches. Avec le centre-ville est plus éclairé et peut-être sur la périphérie un peu moins, avec un usage différent, où il y a d'autres endroits où on a des abaissements et des remontées de lumière, donc il y a d'autres types d'expériences. Dans Moguio et à Carnon, moi je sens qu'il y a une tension, et même si l'expérience était intéressante, je pense qu'elle crée un problème. Elle crée un problème de peur.
Donc, la décision est de dire nous poursuivons l'expérience. On n'a pas dit que c'était comme ça, point. Et on verra. Alors, la gendarmerie, parfois, nous donne des chiffres, mais elle nous donne certains chiffres. Elle répugne à communiquer pour le grand public. Vous le savez.
Elle ne nous l'écrit jamais. Elle ne nous l'écrit jamais, on les reçoit tous les mois, et tous les mois, ils nous donnent leurs chiffres, mais c'est toujours oralement et jamais par écrit, gendarmerie ne communique pas. De toute façon, c'est un sujet qui nous préoccupe. Je pense que la bonne solution, la solution radicale, il n'y en a pas. Nous essayons d'oser un parti pris environnemental et en même temps de sécurité des citoyens. Nous y mettons les moyens qui ne sont pas encore effectifs puisque les recrutements ne sont pas encore agissants, ne sont pas opérationnels. Je vous demande un petit peu de patience, sans imaginer que 6 policiers supplémentaires vont permettre de systématiquement arrêter tout délinquant à Mouguio. Mais en tout cas, en termes de sentiment, si vous avez remarqué les uns et les autres, vous devez voir nos policiers municipaux sillonner le village et également les véhicules de gendarmerie. Les consignes ont été données pour qu'il y ait plus de visibilité en termes de prévention plutôt que dans le recensement d'un certain nombre de faits délictueux qui auraient été élucidés. On préfère, faites-vous voir, comme vous voir, klaxonner et souriez, comme ça on vous remarquera. Voilà. Donc je veux dire, il y a quand même, je pense, un investissement relativement important là-dessus. Voilà. Et les villes environnantes, ça n'est pas de consolation, ne sont pas mieux loties que nous.
Pour information, M. Borrell, moi je connais des gens à Carnon qui tournent en voiture toute la nuit, à trois dans les voitures. Et je leur ai donné des orientations et des non-orientations en fonction de ce qu'ils peuvent constater et en fonction de l'implication qu'ils peuvent avoir. Alors bon, pour eux, ça rentre dans le cadre de voisins vigilants, mais c'est un voisin vigilant permanent sur toute la commune. Voilà. Mais bon, c'est, comme le disait Laurent, c'est préoccupant parce que ces gens-là sont dans un sentiment d'insécurité par rapport à ce qu'ils ont vécu pendant 5 ou 6 mois en arrière, et ils n'ont pas aujourd'hui, malgré les annonces que vous avez faites, ils n'ont pas aujourd'hui la certitude que leur sécurité sera évidente au moins à 50-60%.
Vous avez en partie raison. Je ne peux pas accréditer la nécessité pour des voisins, pour des gens qui veulent se rendre vigilants, de faire le travail de la gendarmerie et de la police. Je ne veux pas qu'ils fassent des papiers mougeaux dont se moquer un peu Coluche, mais c'est un petit peu ça. Bon, ce n'est pas une milice, ce n'est pas une police parallèle. J'ai demandé un certain temps, le temps que nous ayons cette brigade opérationnelle, je l'ai promise pour le 1er juillet, elle sera. Si c'est libre avant, tant mieux. Mais à partir de ce moment-là, H24, nous assurons la couverture du territoire. On a été patient jusqu'à maintenant. Je vous demande un mois et demi de plus. Voilà, on est là-dedans. Et on partage cette préoccupation. Pour le coup, c'est un sujet relativement consensuel qui mérite beaucoup de sérieux et beaucoup de considérants. On ne peut pas avoir les uns ou les autres. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un effet rebond parfois qui s'opère. Mes collègues de Perron ou de Latte, de temps en temps, ils me disent cette nuit, ça y est, ils sont passés, il y a eu une réserve. Alors après, l'analyse des faits délictueux avec l'arrestation de telle ou telle bande, bon, quand on interroge la gendarmerie, ça va être pour tout de suite, ils sont en train d'enquêter, souvent c'est des trafics d'économie souterraine, c'est toujours complexe, vous le savez. Et notre pôle jeunesse et médiation, il y a les maraudes, il y a un travail de prévention qui est fait. Et par rapport à la ville et à sa périphérie d'une grande métropole, d'une grande comme Montpellier, d'une grande ville comme Montpellier, je ne vais pas m'en satisfaire. Enfin, on arrive à avoir une vie relativement sécurisée. On essaiera de faire mieux avec également la vidéo cet été qu'on va expérimenter à Carnon et qu'on développera ensuite petit à petit. Et avec surtout un dispositif mairie vigilante que vous avez vous-même soutenu pour justement essayer d'arriver à créer, à rééquilibrer ce sentiment pour que ce soit plutôt un sentiment de sécurité et pas d'insécurité. Bon, ce n'était pas le point du jour. Je souhaite quand même qu'on revienne maintenant à l'ordre du jour. On n'a pas voté ? Alors on vote. On vote la modification des tableaux des effectifs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord. Voilà mon point. Allez, à la suite.
Allez, la délibération numéro 25 qui porte sur le plan de formation et règlement de formation 2019. Donc on amène devant vous le plan de formation pour les agents. Rien à peu près de dire, c'est chaque année la même délibération. S'il y a des questions.
pour vous dire, je peux vous dire qu'on en a un gros pour 75 000 euros. Vous ne vous demandez pas, mais je vous le dis. Hein? Donc c'est une somme qui est conséquente, qui est significative de la volonté de professionnaliser chacun au niveau sécurité et au niveau également qualification et intelligence dans l'exercice du métier. Voilà. Et c'est apprécié. On passe au vote. Contre, abstention, je vous remercie.
Numéro 26, qui va traiter du compte épargne-temps des agents municipaux. Donc la volonté, c'était de porter à connaissance quels sont les bénéficiaires et quelles sont les règles d'alimentation, toutes les règles qui prévoient le compte épargne. On l'a d'abord amené en discussion au CTP, pour qu'il y ait une discussion avec les syndicats, les représentants du personnel. Et donc on en a sorti cette délibération qu'on porte à votre vote. Ça a déjà été voté en CTP avec tous les partenaires.
C'est un vote à l'unanimité.
C'est un vote à l'unanimité et trois syndicats.
Bah oui, parce que quand on a le compteur bloqué à 60, finalement ce qu'on a fait c'est la régulation. Essayer de faire en sorte que ça se fasse intelligemment, qu'on n'ait pas une dépose massive et qui désorganise les services. Et voilà, parce qu'il y a quand même des dispositions sociales et professionnelles, un statut qui va bien. Voilà. Donc il y a eu un bon dialogue avec les syndicats. Tout le monde était d'accord.
On a fait plusieurs ajustements, on est arrivé à tomber d'accord.
On se met d'accord, personne n'est tombé. Allez, on passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Le compte est bon. Point 27. Monsieur André Sanchez sur un point tellement attendu. Oui.
Merci, monsieur le maire.
Pour la mise en bouche.
Alors, dans le cadre de l'action menée par la commune depuis 2007, une convention était signée avec l'Association vétérinaire pour tous, la Société de protection animale, le Conseil de la protection féline de l'Hérault et l'Association L'Arche des animaux. Ceci afin de mettre en commun les compétences et les moyens permettant de réaliser une campagne de stérilisation des populations félines errantes sans propriétaire vivant en groupe dans des lieux publics de la commune. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les associations vétérinaires pour tous et le Conseil de la protection féline ont été dissoutes. Alors, pour compenser, on vous demande de bien vouloir donner l'autorisation à M. le maire de signer une nouvelle convention avec chacun des vétérinaires du territoire qui souhaitent poursuivre cette action. Les docteurs Léos, Le Gris, Couche Arrière, ou Couche Aval, c'est pareil, et Sultan. Le suivi sanitaire de ces animaux. Voilà, on demande que vous donniez l'autorisation à M. le maire de signer cette nouvelle convention avec des vétérinaires locaux.
Coucharé, il va te castrer pour être là.
Pour éviter les raves félines. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 28, il s'agit d'un mandat spécial aux élus. Un élu, M. Claverie, qui est absent pour cause d'accident, mais qui va bien. Donc, M. Claverie s'est rendu à Beauvais le 24. Il devait s'y rendre du 24 au 26 avril, mais il est revenu le 25, parce qu'il y a eu un accident, pas mortel, heureusement, afin de participer aux cérémonies de célébration de la libération italienne. C'est lui qui s'est trouvé prisonnier à son voyage. Donc, le remboursement des frais se fait sur la base des frais réels, c'est-à-dire en fait on vous demande de régler les frais d'autoroute et peut-être une nuit d'hôtel, même je pense qu'il était invité. Voilà. Donc on passe au vote. Contre, attention, merci pour lui. Et ensuite, il y avait un autre déplacement. Celui de M. Dominique Balsamo, qui est revenu sain et sauf d'une expédition à Gruissan, où il répondait à la convocation des adhérents de l'UVPO, l'Union des villes portuaires. Eh oui. Voilà, donc il convient de rembourser les frais à M. Balsamo. Voilà, si vous voulez, il tient à votre disposition le compte rendu de sa mission. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Chers collègues, je me permets de vous rappeler qu'il y a un vote dimanche prochain. Mon rôle. Celui-là, ce dimanche, M. Sanchez, pas l'autre. Ce ne sera pas un jour sans vote. C'est dimanche prochain. Voilà donc, les bureaux de vote ouvrent à 8h, seront clos à 18h, et que j'espère que la tradition républicaine fera que nous aurons beaucoup de votants, même si aujourd'hui les anticipations ne plaident pas pour cet optimisme. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et vous donne rendez-vous au prochain conseil qui se déroulera à Carnon le 24 juillet. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Le premier votant. Ça va, la loi, mais c'est vrai.